Je suis Adrien Garcia, entrepreneur, designer et cofondateur de la marque de vêtements Réunis. Et vous écoutez The Bold Way. L'avenir appartient à ceux qui remettent en cause l'ordre établi. Mais comment réinventer les règles, créer des projets iconiques et des œuvres qui marqueront l'histoire? The Bold Way est le podcast qui rentre dans la tête de ceux qui excellent dans leur domaine. Mode, divertissement, food, design, art ou business. Leur point commun? Le travail, l'audace, l'innovation et une attention toute particulière à la créativité et à l'esthétique. Ma mission est de décortiquer leurs méthodes et leur état d'esprit à travers des interviews longues et sans filtre, pour vous donner les clés de leur succès et vous inspirer à créer votre propre chemin. The Bold Way est plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement qui encourage chacun à trouver sa propre voie, à tracer son propre chemin et à innover dans son domaine. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans The Bold Way. Je suis aujourd'hui avec Maroussia Rebec. Salut Maroussia.
Salut Adrien.
Ça fait un bail qu'on devait enregistrer cet épisode. Mm-hmm. C'était Sarah Andelman qui m'avait soufflé ton nom à la fin de son épisode. Cinq ans après, je réinterviewe Sarah et elle me dit, et je lui dis, j'ai toujours pas interviewé Maroussia, alors que je l'ai invitée, mais elle m'a pas répondu. Et donc, elle a ressoufflé ton nom. Et nous voilà. Donc, ouais. On embrasse Sarah si elle nous écoute. Je suis sûr qu'elle nous écoutera. Et nous voilà. Donc, avec Maroussia. Maroussia, pour commencer, on est où là pour remettre un peu de contexte et ceux qui ont la vidéo?
Là, on est donc dans mon bureau à station service, qui est le bureau de presse historique de Andrea Cruz. Mmh. Et devant la collection des archives Andrea Cruz.
Carrément. Et donc, toi, tu t'es avec eux depuis le début. C'est tout ce qu'on disait en off.
Ouais.
T'es d'une fidélité incroyable.
Ouais, je suis une femme fidèle. Mais c'est vrai que Jean-François, donc, qui dirige ce bureau de presse, m'a tout de suite soutenue au début d'Andrea Cruz. Et pourquoi changer quand on fait les choses bien, hein?
Ouais, ça se passe bien.
Ouais, ça se passe super. T'as vu? Il est bien, non?
Il est adorable, franchement. Et puis, il nous reçoit aujourd'hui dans ce lieu. On est dans le 10e arrondissement, rue des Petites Écuries. C'était un ancien atelier de fourrure, il me disait.
Je crois que c'était une ancienne église protestante.
En dessous, c'était une ancienne église protestante, mais ici, c'était un atelier de fourrure. Et ça ressemble grandement au studio Berceau, parce que le studio Berceau est à quelques numéros d'ici, que j'ai eu la chance de faire avec Marie Ruquet. Alors, t'es qui, Maroussia? Parce que ça fait un bout de temps qu'on te voit, on entend parler d'Andrea Cruz en long, large, en travers. Moi, t'as toujours été sur ma carte, comme on dit. Mm-hmm. Je t'ai toujours connu. Mais t'es qui?
Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Commencer.
Alors, j'espère que vous avez 3 heures devant vous.
Mince, Adrien, je sais.
Elle est désarmante, cette question, parce que qui suis-je?
Moi, je suis une artiste, designer, entrepreneur. Je m'appelle Maroussia. J'ai fondé la marque Andrea Cruz, qui est une marque pionnière de l'upcycling. Et voilà, en gros. Mais je suis une fille sympa qui a plein d'idées voilà.
Très bien. Écoute, on va diguer dans tout ça. Moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, les différents milestones de Andrea Cruz, et puis les projets qui ont suivi, parce qu'il y a, quand on regarde ton LinkedIn, parce que t'as un LinkedIn qui est très fourni, on voit Minimal, Wise Woman, Andrea Cruz, bien sûr. Récemment, on a entendu parler de toi beaucoup avec ta collaboration avec VP. T'as fait énormément de choses. Mais qu'est-ce qui t'a mis le premier pied dans le monde de la mode, quoi?
Moi, je crois que je viens plutôt du monde de l'art.
D'accord, ok.
J'ai fait des études d'art.
Ouais. T'es une Parisienne, hein, t'as grandi à Paris.
Non, je suis née à Bordeaux. Tu veux que je commence par quoi?
Ta naissance.
Le monde, ouais. À part ma naissance.
Ta naissance. En 1900 bip.
Ouais. Voilà. Et donc, il n'y a pas grand-chose à raconter. Moi, je suis née d'une famille bourgeoise normale, très normale, avec une obsession pour cette normalité. Et donc, après, dans ma pratique aujourd'hui, c'est quelque chose que je critique. Du coup, ça a fait de moi quelqu'un de iconoclaste ou un peu excentrique, en tout cas très créative, parce que j'avais besoin de sortir du cadre qui était imposé, comme
bien
beaucoup
sûr.
De gens. Donc voilà, je viens de là.
Tu veux boire un verre d'eau, non?
Je sais pas, j'ai ce petit truc coincé.
Ouais, mais ça va se décoincer au fur et à mesure qu'on parle. Donc Bordeaux, donc tu grandis à Bordeaux. J'y étais il y a pas longtemps, c'est joli Bordeaux, c'est sympa comme endroit, mais ouais. T'es vite monté à Paris quand même.
Non, non, en fait, oui, moi, mes parents déménageaient beaucoup.
D'accord.
Donc, je quittais l'école, tu vois, en plein milieu d'année, et puis j'étais la nouvelle qui s'appelait Maroussia, donc j'ai appris à me faire facilement.
C'est Maroussia, c'est pas évident quand t'es gamine. Ouais.
Moi, je sais pas si c'était pas difficile, mais d'être nouvelle avec un prénom différent, oui, ça m'a appris, je pense, beaucoup à embrasser la différence et à aller vers les autres pour me faire rapidement des copains. Et je suis revenue, mes parents sont revenus à Bordeaux quand moi je suis rentrée en seconde. Mmh. Et j'ai fait des études de lettres avant de rentrer aux Beaux-Arts.
D'accord. Trop bien. Et t'as fait les Beaux-Arts où ?
À Bordeaux.
À Bordeaux, toujours, ok. Avec ce rêve de quoi ? De devenir artiste ?
Ouais, avec je sais pas si c'était un rêve, mais j'étais déjà artiste. Mmh. J'avais accompli, si tu veux, quelque chose qui était aussi interdit de par mon éducation, aller vers la création. Il fallait plutôt aller vers le business. Et donc je me suis extrêmement épanouie dans mes études d'art.
Bien sûr.
Et à la fois, j'avais une vision très forte de ce qu'était ou ce que n'était pas l'art. En tout cas, je voulais pas faire d'objets. Je faisais des performances, j'organisais des manifs, j'organisais des trucs basés sur l'énergie et le mouvement, plus que l'objet qui allait être encapsulé. Ensuite, j'avais peur de faire des tableaux qui se retrouvent dans la salle d'attente d'un cardiologue. Je trouvais ça vraiment dégueu par rapport à ce que je pensais de l'art.
Bien sûr.
Et je suis venue aux vêtements dans le cadre de mon stage de quatrième année où il fallait faire un stage en entreprise. Je voulais pas faire ça. Je trouvais que le monde était économique, était pourri et que je voulais pas m'inscrire dedans. Et là, le prof m'a rattrapé en disant, OK, ben, si tu trouves que toutes les entreprises sont pourries, t'as qu'à en monter une qui est super. J'ai dit, trop bonne idée. Mais une entreprise de quoi ? Il m'a dit, bah, t'es super looké, t'as qu'à faire une entreprise sur les vêtements. Je te déroule ma vie, ça y est. Et donc, j'ai dit, trop bien, je vais faire quelque chose sur les vêtements deuxième main, les gens de la rue, dans un lieu alternatif, pour montrer que la beauté, la création, la mode, c'est pas ce qu'on voit dans les magazines, qui est quelque chose de hyper...
lisse, ouais.
Plaqué, lisse, c'était dans les années 90, l'époque des grandes mannequins blondes et tout. Moi, j'étais une petite brune. Comment exister dans le monde de la publicité? Comment se sentir bien par rapport à ce qui nous est imposé? Et donc, voilà, ça, c'est ce sur quoi j'ai voulu travailler. Et j'ai monté un projet en appelant le Secours Populaire. Donc, on est en 1998, le vintage n'existe pas, on parle vraiment de fripe et c'est vraiment pas quelque chose qui est...
Pas du tout sexy, ouais.
Bon, moi je trouvais ça sexy, mais pas sexy pour le grand public.
Pour le grand public, aujourd'hui c'est devenu mainstream avec, avec les vestiaires co, tout y quanti.
C'était bien avant, ouais.
C'était 98, champion du monde déjà, belle année, c'était incroyable, mais c'était près 2000 quand même, ça paraît fou. Et donc une visionnaire.
Moi, je suis une visionnaire, ouais.
et ça s'appelle comment à l'époque, en 98?
Du coup, il n'y avait pas de nom, donc j'ai monté, c'était mon projet d'étude, et j'ai monté je suis allée chercher des vêtements auprès du Secours Populaire, trouver des gens dans la rue, donc ça, c'est mes premiers castings de rue, et j'ai été repérée par une dame qui s'appelle Jenny Loga, qui travaillait au CAPC, et donc elle, c'était une fan de mode, une fan de Margiela, je connaissais pas, et donc elle avait entendu parler de la petite étudiante qui montait un projet sur le deuxième main.
Toujours à Bordeaux, là on est toujours.
On est à Bordeaux, Et elle m'a invitée donc à faire mon premier défilé quand j'étais étudiante à Bordeaux, au CAPC, qui est le musée d'art contemporain
De
Bordeaux, mais qui était un grand musée international, dans lequel il y avait eu plein de défilés, Driss, Vivienne Westwood, Issey Miyake.
Ah ouais.
Et donc, voilà. Donc moi, j'ai commencé comme ça.
Très bien.
Avec un défilé de fripe dans un musée avant les années 2000.
Incroyable. C'est fou. Et alors, c'est quoi la suite alors? Moi, je veux tout savoir. Hein. Raconte tout.
Oui, après la suite, c'était super. C'était un très beau projet.
Et là, tu commercialises quelque chose ou pas du tout?
Non. Oui, en fait, on vend tout aux enchères au profit de l'association humanitaire. Okay. J'ai beaucoup fait ça. Et je passe mon diplôme, je fais un post-diplôme à Nantes, une résidence d'artiste à Nice. Moi, j'étais une jeune artiste branchée quand j'arrive à Paris, et c'est en 2002, et c'est aussi l'ouverture du Palais de Tokyo. Et donc, Jérôme Sens et Nicolas Bourrieux organisaient des grands castings de jeunes artistes cool pour voir qui ils allaient inviter dans leur prochaine programmation. Et moi, j'ai été castée, puis invitée. Et là, j'ai monté un projet qui s'appelle Andrea Cruz, qui était l'idée d'un alter ego qui pouvait avoir des idées sur tout. Et j'ai monté plusieurs projets, un projet musical, un projet éditorial, un projet curatorial et un projet de mode, en refaisant un peu ce que j'avais, en fait en retravaillant sur le vêtement deuxième main, mais en y ajoutant une nouvelle dimension qui était celle de retravailler le vêtement, c'est-à-dire de le transformer.
Okay.
Alors qu'au début, je travaillais plutôt sur le vêtement sociologique. Qu'est-ce que c'est que ce look habillé jean noir, t-shirt noir, ou qu'est-ce que c'est que ce look mini-jupe
Qu'est-ce que ça dit de moi, là, Maroussia?
Bon, simple. Bon, t'as un petit truc Bart Simpson, quand même.
C'est un t-shirt Tom Sachs.
Voilà, c'est un t-shirt Tom Sachs. J'aurais pas dit, de premier abord. Et tu portes les clés...
Avec un mousqueton.
Ouais. Ça, c'est Écos. Et les chaussures
C'est des Blundstone, hein, c'est Boboland Big Time, non?
Tu t'appelles Boboland, tu t'appelles toi-même Boboland Big Time?
Moi, je suis un gros bobo, ouais.
Ok. Moi, je serais une visionnaire.
Ok. Et pourquoi Andrea?
Alors, Andrea Cruz, c'était l'idée de créer un alter ego. Donc, Andrea, c'est à la fois une femme italienne, un homme allemand. Cruz, ça veut dire le crew. Et ça sonnait un peu comme Penelope Cruz, Tom Cruise. On savait pas trop comment ça s'écrivait. Ça a créé un personnage comme ça, international, dans lequel chacun pouvait se projeter. C'était l'idée de faire un collectif qui, avec le nom de avec une personne qui puisse incarner les valeurs d'un collectif, mais que ce soit pas mon nom, parce que moi je suis une personne.
Très bien. Comment ça se passe que là tu fais un projet au sein de l'enceinte du Palais de Tokyo.
Yes.
Là t'es repéré. Yes. On peut pas. Ça s'appelle The Ball Way. Tu vois, on peut se permettre de faire des yes et des waouh. Donc là, t'es repéré par qui? T'es repéré par la fashion sphere ou?
Non,
toi, t'es toujours.
Non, moi, j'ai été repéré, en fait, quand même. Donc, au Palais de Tokyo, j'avais installé une montagne de 5 tonnes de fripes et des machines à coudre. Et j'avais invité à la fois des grands noms comme Castelbajac, qui avait accepté, ou Karl Lagerfeld, donc Chanel, qui avait accepté de participer. À la fois, il y avait des jeunes branchés comme Sandra Berébi ou Marion Anania, et à la fois, il y avait des réfugiés du Secours Populaire comme Joseph Kamanga. Donc, ce qui était beau, c'était de faire ensemble une collection collaborative.
Okay.
Donc, ça, on cousait tout le temps et il se passait plein de choses.
Mais on prenait quoi? Des pièces de ces maisons-là? Des fripes
C'était des fripes.
Ouais.
Et par exemple, pour Chanel, j'adore l'anecdote. Donc, Karl, il n'est pas venu dans le workshop coudre avec moi, mais je lui ai envoyé un petit tailleur Etam, le faux tailleur Chanel en faux tweed de chez Etam,
truc. Très bien, bien sûr.
Et que j'ai envoyé donc dans les ateliers, et me l'ont tout customisé, de vrais trucs Chanel, des dorures, des broches, des pins, et il était devenu Chanel. C'est assez beau, non?
Ouais, c'est classe.
Ouais, c'était trop bien.
Et donc là, tu fais une performance.
Ouais, donc ça, c'est une performance qui dure 3 semaines, qui était énorme, des vêtements volés partout dans le palais de Tokyo. C'était très impressionnant.
Et puis un acte fondateur pour Andrea Cruz, quoi, pour le coup.
Ouais, ouais, pour moi,
pour toi.
Plein de choses, ouais. Et j'ai été repérée par les gens de Galliera. C'est vrai que les gens de Galliera sont passés et ils nous ont invités à défiler.
Au palais Galliera.
Ouais. Donc ça, c'était donc en mai...
C'était le musée de la mode à Paris.
Oui, le musée de la mode de Paris, en face du Palais de Tokyo.
Bien sûr.
Et donc, on a défilé là-bas à l'issue du workshop et on a revendu les vêtements. Tous les vêtements étaient vendus au profit du Secours Populaire.
D'accord.
Qui nous avait donné les vêtements de départ.
La boucle est bouclée.
Ouais. Enfin, et après ça, il y a une curatrice qui avait vu la performance et qui m'a invitée... à faire cette même performance à Berlin. et a invité Andrea Cruz, mon crew, à aller là-bas rencontrer des designers de mode. Et bah voilà, c'était la première fois que je voyageais jeune artiste avec mon travail. Et là, j'avais vraiment l'impression que la boucle était bouclée et que j'étais partie quelque part.
Ouais.
Et là, cette performance, on l'a faite au fil du temps, un peu partout dans le monde. Ce qui a fait que Andrea Cruz est devenu ce collectif protéiforme. Parce que, en fait, autour du tas, donc je parle de tas de vêtements, hein, la montagne, j'attirais, quand j'allais dans une ville, les designers de mode, mais les photographes, les modèles, les gens de la nuit, tout le monde venait s'habiller, pratiquer l'expérience avec nous, et on faisait la fête, et donc j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens comme ça.
Incroyable.
Trop bien.
Trop bien. Donc là, ça y était. T'as pété le game, en fait. T'es sortie de ta condition, en fait.
Je sais pas si j'ai sorti de ma condition bourgeoise, oui. Voilà. J'ai pété le game, en tout cas pour une fille de 20 ans, 25 ans.
C'est extraordinaire.
J'ai bien pété le game. J'étais bien heureuse, ouais.
Ouais, ouais. T'as bien démarré. Alors, Andrea Cruz, ça fait 22 ans que ça existe maintenant. 2022, 2024, ça fait 22 ans.
Ouais.
Quelles ont été les grandes étapes de cette aventure, Andrea Cruz? Parce que moi je me rappelle d'un moment où il y avait une boutique quand même, Andrea Cruz, dans le Marais.
Ouais.
T'as fait plein de défilés sur les Fashion Week.
Oui.
Haute couture ou prêt-à-porter?
Non, prêt-à-porter homme.
Prêt-à-porter homme. T'as fait des collabs de ouf, etc. Mais Andrea Cruz, c'était à chaque fois un événement et puis une grande fête. Il y avait toujours ce côté collectif, festif, des défilés qui finissaient où tout le monde dansait, etc. C'était assez incroyable et plein d'énergie. Quels ont été ces grands milestones, comme j'aime dire?
Je sais pas trop, mais disons que là, je viens de raconter le
genèse,
milestone fondateur.
Ouais.
Ça, c'était en 2002.
Ouais.
On est rentré effectivement en Paris dans le calendrier officiel de la Fashion Week en 2014, donc longtemps après.
Ah, vachement longtemps après, ouais.
Ouais.
T'as pas essayé d'y rentrer plus tôt?
Non, j'ai pas du tout essayé. Bah, c'est grâce donc à le travail du bureau de presse, hein, de un moment dire qu'il faut plus structurer. Mais en fait, disons que de 2002 à 2009, la toute première fois que j'ai présenté, je suis un petit peu bordélique dans ma pensée. Mais il y a eu un moment important, c'était Nuit Blanche 2006, parce que j'ai fait une énorme performance dans la rue entre Belleville et Couronne, où j'avais recommandé la 10 tonnes de fripes pour habiller les gens. On avait fait 12 défilés pendant la nuit où on prenait les gens de la rue, on leur faisait des looks et toutes les heures, le catwalk s'allumait et hop, on balançait un défilé. Je me suis retrouvée le lendemain de cette performance, donc avec, il devait me rester 9,9 tonnes de fringues. Ça, je les ai installées dans un atelier à la Générale. Et là, j'ai une première pratique d'atelier. J'avais des fringues et puis peut-être que petit à petit, j'ai eu des machines et petit à petit, j'ai eu des gens qui sont venus travailler avec moi, des stagiaires. Je suis peut-être la fille qui a eu le plus de stagiaires au monde. Et donc là, j'ai commencé à développer un projet autour des fringues.
D'accord.
Alors qu'avant, c'était vraiment juste
performance artistique,
événementiel ou hop, j'ouvrais, je refermais la boutique.
Et juste 12 tonnes, on les trouve où, les 12 tonnes de fringues, de fripes?
Oh bah, tu passes un coup de fil, je pourrais te donner, ouais.
C'est quoi, ce cours pop, moi je veux 12 tonnes de fringues.
Ouais, en fait c'était 10, mais oui, tu vois bien là quand on voit tous les reportages sur les centres de tri.
Ouais,
un centre de
énorme.
Tri en moyenne, il reçoit 10 tonnes de fringues par jour, donc en fait il m'avait prêté, je me souviens plus s'il me les prête ou s'il me les achète ou si on les achète, peut-être la prod avait acheté et après la prod transportée
Et d'ailleurs là, donc les Nuits Blanches, c'est un événement, c'est tous les ans la Nuit Blanche, c'est dans les grosses villes. Moi je connais celle de Paris, il y a celle de Lyon, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs des Nuits Blanches maintenant, c'est assez mainstream.
Oui, moi je l'ai faite à Kyoto.
Ouais, voilà.
Une fois.
Et pendant, il y a des performances toute la nuit d'artistes dans la ville.
Oui.
Et la Générale, c'est quoi? T'as pas la Générale?
Moi, c'était un atelier, c'était un grand squat à Belleville, atelier d'artistes.
Ok. Et à cette époque-là, tu comment ça se finance tout ça?
Oh bah alors là, c'est très peu financé.
Il y a zéro budget.
Moi, j'étais... Non, il n'y avait pas... un squat, c'est gratuit.
Ouais.
Donc, les restes de la prod, c'est gratuit. Moi, je travaillais comme croupière dans un cercle de jeux. J'étais croupière multicolore. Faites vos jeux, messieurs, rien ne va plus. Donc, je vivais de ça. Okay. Et puis, on n'avait pas besoin de beaucoup de fric pour développer.
Ouais.
Et donc on était dans cet atelier, j'avais des fringues, plein de stagiaires, j'ai commencé à monter des équipes à faire des fringues et j'ai gagné de l'argent la première fois, ça c'est un milestone.
Ouais.
Quand un gars qui s'appelle Pascal Montfort, qui travaillait à l'époque pour...
Déjà Pascal, il était déjà là, on l'embrasse.
Pour Nike, et qui cherchait les gens qui faisaient des... je sais pas comment on dit, qui avaient des pratiques éthiques, durables, sustainable, tu dis comme tu veux, mais qui étaient cool. C'était le début de ce qu'on appelait à l'époque la mode éthique.
Ouais.
Et donc, je pense que Nike s'intéressait à ces pratiques, en tout cas, de loin, ils cherchaient.
Mmh.
Et ils étaient venus nous voir avec une délégation, comment on peut être éthique et cool. Mais c'était des vraies questions,
Mmh.
Et, ils nous ont proposé une collab. Et c'était une collab difficile pour moi parce que j'étais une artiste inspirée,
ouais,
très radicale dans ma proposition politique, on va dire. Et là, j'étais en train de me faire acheter
c'est
par
un pacte avec le diable, c'est terrible.
Le grand capital.
Bah ouais, Nike, c'est quand même...
C'était chaud. Et j'ai beaucoup réfléchi, c'était très dur. Mmh. Et j'ai dit oui, j'ai pris l'argent.
C'est toujours des questions difficiles, ça. Hein. Et même encore aujourd'hui, je trouve, quand on se fait accompagner, sponsoriser, etc., ou tout à l'ère de l'influence, j'y vais pas, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui doivent se poser la question parfois. Quand tu vois les Mango Girls qui prennent l'argent, tu dis bon, c'est quoi la part de la responsabilité versus j'ai envie de bouffer à la fin du mois, tu vois.
Ouais. Bah là, c'était très. Alors bon. Donc pour moi c'était très profond, c'était très c'était le début des collaborations, c'était ma première collaboration et je dois dire que ça a été hyper inspirant, je regrette pas, je vais te dire pourquoi.
Ouais, vas-y.
Bon déjà ils sont venus nous voir, ils m'ont donné à upcycler des vêtements de chez eux. Donc moi je suis passée de la fripe aux vêtements techniques et créativement ça m'a emmenée très très loin. Je veux dire ça a ouvert ma pratique. Et ça a ouvert ma pratique aussi à un univers de marque, je connaissais pas. Après, il y avait tout ce qui était la marque, mais il y a aussi avec qui tu parles. Donc moi, je parlais avec Pascal, qui est devenu mon ami, et donc c'était un échange qui était très riche. Et aussi le résultat de ce qu'on a fait, la proposition créative et aussi créative, écologique et esthétique générale. Mais je trouvais que ça projetait Nike quand même vers un endroit où il n'était jamais allé. Et pour moi, c'était très fort. En tant qu'artiste, j'étais fière de ce que je faisais. Donc, ça dépend de quelle perspective tu le regardes. Mais moi, de la mienne, je trouvais que ça faisait un petit effet papillon et que c'était comme ça qu'on pouvait construire le monde de demain.
Oui,
j'ai pas du tout regretté.
C'était pas contre, c'est le changer un peu de l'intérieur, quoi.
Oui, en tout cas, ça a posé une série d'images, une série de collaborations qui étaient super puissantes et fondatrices. Et donc eux, bien sûr, peut-être qu'ils s'en sortent. On peut toujours dire que c'est du greenwashing, du walkwashing, mais pour ma communauté, ça permet aussi de projeter des futurs plus désirables et de nouvelles esthétiques. J'étais hyper contente et depuis j'ai fait plein de collabs avec plein de marques et j'aime ça. J'ai l'impression que je les entraîne un peu. J'ai plus l'impression que je les entraîne vers mon histoire, que je les éduque, que c'est la politique des petits pas, que celle de me faire avaler parce que moi je reste moi.
Indépendante. Donc 2006, Nuit Blanche, ça c'est en quelle année?
Tu suis?
Ouais.
Ça c'est 2008.
2008, ok, avec Pascal et Nike.
Ouais. Donc milestone, après j'ai ouvert un lieu, moi à Pigalle, une boutique Andrea Cruz. Puis voilà, bah là on a vécu notre meilleure vie de fêtes, de collab pendant quelques années. On a fait notre donc premier défilé Moi, je voudrais citer que une de mes stagiaires, Angie Dinvan, est devenue a pris le projet en main pour le développer en marque à partir de 2008.
D'accord.
En 2009, on fait un premier défilé au musée du Jeu de Paume. Et Angie commence à vendre les vêtements. Moi, je sais pas, j'ai horreur de vendre des fringues. Et
ah ouais,
surtout,
donc, ouais, c'est quelqu'un qui vient s'associer à toi et qui le transforme en business, quoi.
Ouais. Moi, j'ai une bonne vision sur le business, mais je n'aime pas vendre des fringues.
Ok.
Et donc, oui, je voudrais faire un big up à Angie Dinvan qui a développé tout Andrea Cruz. Donc, elle est arrivée à ce moment-là. Voilà, 2009, premier défilé. Et puis, je sais pas, milestone.
Ça veut dire que tu fais défilé et après, vous avez un showroom.
Ouais.
Et là, il y a des boutiques qui viennent acheter les modèles.
Ouais.
Et donc, les modèles, vous arrivez à les produire en série à l'époque.
Ouais.
Avec du upcycling.
Ouais.
Toujours.
Oui.
Ah, mais c'est fou parce que vous êtes vraiment... Vous avez 15 ans d'avance, quoi. C'est assez impressionnant, quand même. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a Marine Serre qui est arrivée sur le game de l'upcycling. On voit quelques marques, etc. Mais c'est encore difficile. On n'y est pas encore, je trouve.
L'upcycling, c'est difficile. C'est un travail artisanal, local. Comment tu le produis, comment tu le distribues. Il y a plein de questions à ça.
Et donc à l'époque, toi, ta vision sur le business, c'est on fait un défilé, on vend à des revendeurs, on produit des petites séries à partir d'upcycling. Donc ça veut dire que les pièces, elles sont pas toutes pareilles à un moment donné. C'est quand même compliqué là. C'est quoi les enjeux de l'upcycling? C'est ça la difficulté, c'est que tu vas récupérer des vieilles séries qui ont été portées ou pas, et il faut les transformer en nouvelles fringues.
Ouais, alors donc nous, c'est la difficulté. Donc on vendait, on faisait des showrooms. Je peux citer le New Black. Moi, je faisais pas les showrooms. Je peux citer que le New Black et peut-être le showroom Rendez-vous.
Ah ouais, toi, tu mettais pas, t'avais pas envie de faire ce truc-là, quoi.
Non, j'aime pas. j'aime bien vendre des idées très chères, mais des fringues pas chères, j'aime pas.
D'accord. La question. Alors, vous pouvez répéter la question. On répète la question pour André. J'ai envie de t'appeler Andrea, c'est terrible. Hein, mais d'ailleurs, ce truc-là, Maroussia Andrea, il y a un peu qui est.
Qui est qui? Ouais, ma mère, elle me dit toujours. Mais c'est toi, c'est Andrea Cruz ou c'est toi?
Ouais.
Non, je me souviens de la question. Le showroom. Donc oui, on faisait des showrooms avec des marques.
Ouais.
Les boutiques viennent, commandent. On faisait tout sur commande. Alors qu'une marque classique
pré-produit. Ouais.
Donc on faisait, une fois qu'on avait vendu, on produisait la pièce. Nous, on travaillait sur du deuxième main. Mais en revanche, je savais commander 100, 200 chemises en jean pour reproduire un modèle en jean.
D'accord.
Donc ça, j'ai appris à faire ça.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'achètes des vieilles fringues, des fins de série, c'est ça?
Bah, où on achetait donc, on faisait des collabs avec des marques, on achète des fins de série de neuf ou on achète du deuxième main.
D'accord.
Et après, quand on s'est développé, on a produit des pièces de façon normale.
D'accord.
Au début, on faisait que de l'upcycling, on était acheté que par des Asiatiques et Colette. Des gens qui aimaient aussi donc notre style, qui était streetwear, créateur, coloré, ludique, oversize, unisex. Donc ça, c'était pas trop Paris à l'époque. Hein.
Donc ça marchait vachement en Asie.
Ça marchait vachement bien en Asie. Et on arrivait à produire, ouais.
Incroyable, ok. Et là, ça devient un bon business rentable ou pas?
Un bon business rentable. Je dirais pas que créateur indépendant, c'est un bon business rentable.
Si vous voulez faire de l'argent, c'est pas ça qu'il faut faire.
Ouais. Non, c'est vraiment, c'est marrant parce que j'ai lu un article il y a pas longtemps sur le métier passion qui te bouffe tout ton temps et qui te rapporte pas grand chose. Mais c'est vrai que c'était génial.
Donc là, t'as Dinvan, comment elle s'appelle son prénom?
Angie. Oui.
Donc elle fait grandir ça.
Oui.
Quelle est la suite? Parce que t'as une boutique donc à Pigalle, tu dis. Vous commencez à vendre dans cette boutique. Vous êtes revendu maintenant dans. Vous êtes monté à 300 revendeurs. C'était énorme.
Ouais, bah on est vendu. Oui, je pense que la grande époque, Andrea Cruz, c'est 2014, 2000, moi, je sais pas trop. Mais disons que oui, quand on rentre dans le calendrier, les ventes ont explosé. Mmh. Ces boutiques dont tu parles, c'est à ce moment-là. Et, bah oui, c'est beaucoup de, mais là, on ne fait pas que de l'upcycling. L'upcycling, c'est vraiment la.
D'accord, c'est la genèse du truc et.
Oui, c'est la collection image.
Ouais, ok.
Je citerai Jérôme Elfer. Tu vois que c'est.
Mais oui, mais il veut pas passer à mon podcast, dans mon podcast, c'est dommage.
Ah ouais. Bon, mais il m'avait fait un plan de collection à l'époque. On était coaché par l'IFM et donc par lui, il m'avait fait un plan de collection. Dont on a parlé l'autre jour, c'est pour ça que je le cite. Et l'upcycling n'était que l'image. Parce que sinon, tu ne peux pas, en anglais, scaler.
Ouais, tu ne peux pas scaler. C'est toute la problématique de ces marques d'upcycling. C'est qu'à un moment donné. Et puis le problème de l'upcycling, j'ai l'impression, c'est que ça coûte pratiquement plus cher qu'une marque neuve.
Ah oui, ça coûte plus cher, ça c'est sûr.
Donc tu fais des moins bonnes marges, les gens se disent bah, attends, c'est de la fripe, pourquoi tu me la vends plus cher, je comprends pas. Donc c'est un modèle qui est un peu bancal.
Ouais, alors aujourd'hui. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est un modèle qui est viable.
Okay.
Parce que en fait, tu peux proposer un produit artisanal et il y a plein de gens. Par exemple, moi j'ai réfléchi à comment on peut le patronner, comment on peut le développer. Ça restera un produit cher, mais ça restera un produit qui a ce qu'on a, je pourrais dire, un supplément d'âme, créatif, bien conçu, et que les gens sont prêts à acheter
valeur,
pour ça.
Bien sûr.
C'est un produit de luxe, l'upcycling. Ouais. C'est pas un produit mainstream.
Ouais, surtout que c'est souvent fabriqué dans des petits ateliers à Paris. Donc c'est du made in France avec des produits qui sont plutôt quali aussi, comme ce que vous allez chercher des bonnes cam. Ouais.
Tu prends des trucs pourris pour en faire un truc super quali.
Je veux dire, le tissu au départ, il est cool, quoi. Enfin, c'est plutôt qualitatif, c'est pas.
Ouais, ou alors, moi, donc quand j'ai travaillé avec VP, anciennement vente privée, je travaillais aussi avec des. Bon, tu choisis, mais les tissus sportifs, c'est pas des tissus de grande qualité, mais tu peux faire un travail de valorisation textile. Et là, à partir de choses qui n'ont pas vraiment de valeur, tu peux recréer de la valeur. Et en fait, moi, c'est fondamentalement ce qui m'intéresse. Et c'est possible de faire ça.
D'accord. Vous êtes monté à donc 300 boutiques, on le disait. Vous avez fait 12 défilés sur la haute couture.
Pas en haute couture.
20 collections, 12 défilés, moi j'ai lu.
Ok, d'accord. Je crois que j'en ai fait plus que ça dans ma vie, défilés, mais peut-être que...
Peut-être
dans le calendrier officiel, ouais.
Dans le calendrier officiel.
Tu connais mieux que moi.
Bah, c'est Wikipédia. Hein. Mm-hmm. C'est LinkedIn, donc j'imagine que c'est toi qui l'as fait. Moi, je me rappelle d'une boutique aussi dans le Marais.
Ouais.
C'est à quel moment, ça?
Alors, après Pigalle, on est parti à Belleville. Et après Belleville, on est parti dans le Marais. Et ça, c'est... je suis nulle en date, moi.
C'est pas grave.
Peut-être 2012, 2020.
Ouais. Et donc là, vous revendez toujours. Donc là, on est sur vraiment une marque en wholesale avec une collection image upcycling. Et ensuite, on fabrique des vêtements à l'ancienne. Enfin, en tout cas, sur le concept classique. Ouais. Voilà. Et ça marche bien. En tout cas, ça survit.
Ça vit. C'est plus que survivre, ouais, quand même. Okay. Ça vit bien.
Vous aviez quelques salariés?
Ouais.
Pas que des stagiaires.
Non, on était une marque créateur cool. On vivait bien. Après, effectivement, c'est épuisant. Le problème, c'est que, mais j'imagine que des gens t'en ont déjà parlé, mais quand t'es créateur, t'es toujours en train de créer, communiquer, vendre. Et en même temps que tu vends la prochaine collection à tes clients, tu récupères l'argent de l'ancienne.
Ouais, il faut délivrer.
Donc en fait, c'est ça qui est très difficile.
La
saisonnalité, la rapidité, et quand t'es une marque qui a beaucoup de reconduits, ben c'est peut-être plus simple. Mais nous, notre ADN, c'est la création. Donc il faut tout réinventer à chaque collection.
D'accord. Donc ça, on s'essouffle un petit peu. Vous fermez la boutique.
C'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc je dirais pas qu'on s'est essoufflé. En fait, moi, j'ai fait des enfants. Hein,
ah.
Puis un deuxième, donc j'étais pas essoufflée, hein. J'étais dans un deuxième souffle et j'avais envie d'autre chose. En fait, le projet Andraku, c'est un projet fondamentalement anti-fashion, tu vois, qui remet en question le système même de la consommation, production de vêtements. Et petit à petit, on était pris à notre propre jeu et on, voilà. Donc, il fallait repenser le système pour avoir plus de liberté, ouais. plus de créativité.
Et sortir du système de la mode, en fait.
Sortir du système de la mode. Mais le problème, quand t'as monté une boîte et que justement t'as des salariés, eh ben, il faut nourrir la famille, quoi. En fait, c'est plutôt, il faut nourrir la famille Andrea Cruz, mais moi, je fonde une autre famille qui me permet de prendre du recul. Enfin, un recul radical et qui me donne aussi beaucoup, beaucoup de force. Mais en parallèle de ça, on se fait planter par un ou deux très gros clients chinois.
On balance.
Non, mais c'était nos plus grosses commandes. Ça fait mal. Et après, s'ensuit le Covid, arrêt total de l'activité. Et donc, pour nous, ça a été une opportunité super parce que ça nous a permis de sortir de notre système. On a été forcés. Donc, un, puis deux, puis trois. Et donc, là, moi, j'ai décidé de dématérialiser Andrea Cruz. C'est-à-dire de ne plus avoir de lieu physique, de ne plus avoir de collection. Andrea Cruz n'est plus une marque de vêtements, mais un mouvement. J'ai des archives qu'on peut voir ici. Et je veux travailler différemment. Mais moi, je veux sortir du système que j'ai créé. Enfin, en tout cas, j'ai réussi à sortir du système que j'ai créé.
D'accord. Donc là, tu repars d'une page blanche, mais en revenant aux fondamentaux, finalement.
Oui. Donc là, je monte un laboratoire d'upcycling avec vente privée. J'ai une vision de pouvoir développer l'upcycling. Donc, je cherche quelqu'un qui a des stocks. Je rencontre Jacques-Antoine Grandjean.
Raconte-nous le contexte de cette rencontre.
Moi, je cherche quelqu'un qui a des stocks.
D'accord.
Et donc,
tu listes tous les gens qui potentiellement ont des stocks.
Non, j'ai une target en tête. D'accord. C'est ce businessman aux cheveux longs et aux bottes en croco qui a des stocks énormes. Je lui écris un mail. Tu sais, comme beaucoup de grands businessmen, ils lisent leurs mails. Et il se trouve que lui, il connaissait très bien Andrea Cruz. Il me reçoit et il avait un lieu. Il lançait lui un projet sur le deuxième main et donc on a lancé cette aventure ensemble Upcycle Solutions pour donc transformer leur stock de façon, je dirais pas industrielle, mais d'essayer en tout cas d'allier, moi je disais, ma créativité radicale avec le monde de la tech et de l'industrie. Voilà, c'est une aventure géniale. En fait, en vrai, il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système de l'upcycling avec VP parce que l'upcycling, c'est quand même un produit de luxe accessible, mais c'est quand même un produit qui n'est pas dévalorisé, qui est valorisé. Mais voilà, c'était... Je pense qu'on était tous les deux hyper contents de voir que les choses sont possibles. Après, on était dans un lieu qui devait fermer pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est qui a fermé. Et si un jour Jacques-Antoine ouvre les puces de Saint-Denis, j'espère qu'on fera un beau projet ensemble.
Trop bien. Ça a duré combien de temps, cette collaboration?
C'était un an.
D'accord. Un an où vous avez été... parce que le système de VP, il rachète donc des stocks de plein de marques,
ouais,
grandes marques,
ouais,
mais des objets aussi, de tout.
C'est leur business VP, maintenant, c'est le voyage, la beauté, le voyage.
Oui, ça va très très loin.
Ouais.
Parmi ces stocks, il y en a une partie qu'ils n'arrivent pas forcément à revendre.
Ouais.
Et toi, donc, tu as été tapé dans ces stocks-là pour faire des collections... d'upcycling, c'est ça, hein?
Oui, alors non, c'est pas qu'il... Oui, on peut dire ça. Il y a plusieurs types de gisements. On parle de types de gisements. Donc, il y a des stocks... Et puis, finalement, eux n'achètent pas forcément les stocks. C'est juste une plateforme. Mmh. Les marques gardent les stocks et eux, ils servent juste à vendre. Mais effectivement, ils ont des stocks de vêtements neufs. Ils ont des stocks de défectueux. C'est-à-dire que les gens, ils achètent et puis ils ouvrent un peu trop vite leur paquet. Ils mettent un coup de couteau dedans et la pièce est abîmée. Ils la renvoient. Donc ça, comme c'est des masses, c'est de la masse, donc il y a quand même beaucoup beaucoup de vêtements. Et comme je disais, eux se lançaient dans des opérations deuxième main, donc ils faisaient des opérations Je sais pas trop comment expliquer, mais avec Adidas, par exemple, avec qui on a travaillé, les gens renvoient via VIP leurs vêtements deuxième main Adidas. Ah ouais. Et ils ont un bon d'achat. C'est des opérations de communication.
D'accord.
Pour eux en interne. Enfin, c'est des tests. Et en fait, moi, j'ai décidé de travailler sur cette matière-là.
D'accord.
Que j'appelle les poubelles de la fast fashion. Pour être vraiment dans un exercice de revalorisation. Radical, politique. Qu'est-ce qu'on fait de nos poubelles? Donc ça, c'est ce qui m'anime, tu vois, dans un sens artistique. Et donc c'est là, c'est pour ça que je parle de revalorisation textile. Et on a fait des pièces, mais vraiment, mais magnifiques.
D'accord.
Mais qui demandent beaucoup de temps en développement.
Ok. Ça a marché, ça a cartonné, quel a été le résultat de cette collab?
Ouais, bah ça a marché, ça a cartonné, c'était joyeux, vivant, des super beaux produits, tout le monde était content. Le résultat, bah en fait c'était une expérience, un crash test on va dire, qui, bah la conclusion, en fait, et c'était aussi pour eux au-delà de la collection qu'on a faite, moi j'ai fait des objets, des sculptures. Jacques Anton est un collectionneur.
Bien sûr.
J'ai fait toute une scéno pour leur plus gros événement, qui est un golf, je sais pas quoi. Bon, enfin donc, on a fait autour du laboratoire, on a créé plein d'opportunités et on a développé une collection que l'on a vendue, mais qui s'est vendue. Mais honnêtement, c'est pas la bonne plateforme pour la vendre. Mmh. Il faut vendre autrement.
Bien sûr.
Ça, c'est une des conclusions. Mais ouais, ça a cartonné. Puis surtout, on avait lancé un compte TikTok.
Ouais.
Je suis devenue TikTokeuse.
Oui, je me rappelle de ces vidéos-là. T'as joué le jeu à fond la caisse.
Je continue.
Ouais.
Ça m'amène un truc incroyable que de parler.
Ouais.
En fait, oui, j'aime raconter, c'est pas tant ma vie, mais en tout cas mes valeurs et mettre en scène ce en quoi je crois. Et c'est vrai que ça m'a lancé là-dedans, hein. C'était drôle.
Trop bien. Donc Andrea Cruz, alors c'est quoi la vision pour la suite? C'est de continuer à créer ce type de collaboration avec VIP, comme vous l'avez fait avec VIP?
Ouais, alors Andrea Cruz, c'était pas VIP, hein, ça s'appelle Upcycle Solutions. Andrea Cruz, aujourd'hui, donc moi je travaille sur les archives. Donc là, on vient d'avoir une grosse acquisition des archives par le Musée des Arts Décoratifs.
Wow, félicitations.
Ouais, je travaille avec un artiste, Charlie Aubry, sur le fait de faire avaler la créativité d'Andrea Cruz par une intelligence artificielle. Je viens de finir un projet avec le Centre Pompidou, où j'utilise les archives pour faire du styling. En tout cas, je mets en scène mes archives là dans un grand casting et une série de photos qui s'appelle Portrait d'une génération, qui parle aussi de ça, comment des fringues qui ont 20 ans sont portées aujourd'hui par des jeunes de 15 ans. Et voilà, moi j'ai envie à ce stade de ma vie où tout est possible, de vraiment travailler ma créativité. Et donc Andrea Cruz, je le porte comme un projet artistique. Pour l'instant, je suis seule avec mon nom de marque. Si quelqu'un veut développer le business, je suis ouverte. Mais moi, toute seule, je le fais pas.
Ouais. Mais ça pourrait redevenir une marque, tu penses?
Je voudrais pas. J'aimerais bien réfléchir. J'aimerais bien trouver la façon dont ça reste une marque, mais sans.
Sans les toutes les emmerdes.
sans toutes les emmerdes.
Pour faire le truc simple. Okay.
Ouais.
Très bien. T'as une activité aussi qui s'appelle Minimal. C'est quoi Minimal?
Non, Minimal, j'ai pas vraiment une activité. C'est pas vrai. T'es toute la partie de direction artistique, toutes les collabs qu'on faisait avec Andrea Cruz.
Ok.
Donc, je continue à faire plus sous mon nom.
C'est quoi? C'est du conseil. C'est du conseil.
Ça s'appelle du conseil, ouais.
En création artistique.
Oui, moi, je suis une créative.
Ouais.
Je suis une creative sustainable director. On dit comme ça en anglais.
Creative Sustainable Director. Mm-hmm. Ok. Et tu peux pas nous dire des gens avec qui t'as bossé ou quelle typologie de gens? C'est quoi? C'est des marques, des retailers, c'est quoi?
Ah non, pas trop des retailers. Non, je monte des projets, moi. Donc en ce moment, je m'intéresse beaucoup à la beauté, par exemple, qui est quelque chose de plus souple, mais qui a besoin, tout comme la mode, de penser sa sustainabilité et ses modèles créatifs. Donc pour moi, par exemple, la beauté, c'est un peu comme la mode, tu vois, ça parle d'identité, ça parle de diversité, ça parle d'inclusivité, d'éthique et d'esthétique. Au-delà de la cosmétique. Et donc, ça, c'est ce que... Pour moi, tout ça, c'est proche de ma pratique de mode, mais il y a une notion de care, une notion de bien-être qui m'intéresse beaucoup.
Ouais.
Quand je parle d'écologie, je parle aussi de... L'écologie, on dit la science du vivant, donc notre être vivant, et moi, je suis une Parisienne, comment il évolue dans son environnement, comment il est bien dans une société en crise, comment... Bon, du coup, moi, je m'intéresse toujours à la portée philosophique des choses.
Philosophique et politique, ouais.
Et voilà, c'est un peu les choses que je mets en place maintenant.
Des grosses marques de cosmétiques?
Par exemple. Mais aussi, je travaille avec des marques de vêtements. Je monte des projets avec Andréa Cruz sur le long terme. Récemment, je me suis formée aux fresques. La fresque du climat, voilà, étant la plus connue. Donc moi, je me suis formée à 3 fresques, qui sont la fresque des imaginaires, la fresque des nouveaux récits et la fresque du textile.
Ok.
Qui sont donc des ateliers d'intelligence créative qui permettent d'appréhender les problématiques de la transition par le biais de jeux de cartes, souvent, que l'on pose de cause à conséquence ensemble pour comprendre en fait ce qui nous arrive et comment on peut s'en sortir. Donc à la fois, j'anime des ateliers comme ça, à la fois j'en crée moi-même sur mesure pour des entreprises autour de mon expertise qui est toujours... la mode, le vêtement ou la beauté, par exemple.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir?
Il faut créer de nouveaux imaginaires. Il faut plus...
C'est quoi ton... Enfin, créer de nouveaux imaginaires, tu peux nous donner des exemples, par exemple, de nouveaux imaginaires? Parce que j'en ai entendu parler, on entend beaucoup parler quand même, hein, de créer un nouvel imaginaire. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on nous vend, c'est la guerre atomique et la fin du monde, quoi, grosso modo, pour la faire courte. C'est quoi des imaginaires positifs possibles? Quelles sont les histoires qu'on peut raconter aujourd'hui pour qu'on puisse se projeter de façon beaucoup plus positive dans le monde?
Il y a plein de choses, mais c'est de comment redonner de l'espoir? Eh bien, en créant des histoires. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que il y a des points de bascule. Si 10% de la société croit, si tu veux, qu'on peut s'en sortir et adopte un mode de vie, adopte un mode de vie qui du changement. Hein. Donc ça passe aussi par des petits pas, mais ça passe par avoir conscience. Il faut aussi appréhender l'écologie d'un point de vue désirable. Comment avoir un futur désirable? Comment en fait voyager local et que ce soit génial? En fait, dans nos imaginaires, les imaginaires dominants, c'est qu'il faut prendre l'avion pour aller hyper loin, pour kiffer. En fait, il faut trouver qu'est-ce qui autour de toi te fait kiffer. Ou par rapport à une société de consommation qui est vraiment le diktat absolu dans lequel nous évoluons, par quoi on pourrait la remplacer? Mais on dit que par la société de la convivialité. En fait, ce qui nous rend heureux, c'est pas de posséder plein de choses, mais c'est d'avoir plein de copains. Si je peux vous donner un truc. Donc de créer des relations humaines positive, riche, c'est de, au lieu d'acheter, de laisser place à l'expérience, la transmission, apprendre des choses, ça nous rend heureux, se sentir maître de qui on est. Donc ça paraît un peu abstrait comme ça, mais en fait tu peux le développer dans plein de petites actions. Et à partir du moment où t'es aussi dans cette dynamique, eh ben voilà, tu fais effet boule de neige.
Trop bien. Et dans le monde de la mode qui nous intéresse en particulier, ce podcast s'appelait Entreprendre dans la mode avant.
Ouais.
C'est quoi les imaginaires qu'on peut se raconter dans une industrie aujourd'hui qui t'as deux gros pôles, hein, t'as le pôle du luxe qui se porte très bien, qui est un marché à 350 milliards et qui est en progression de 30% dans les 20 ans ou plus, je sais plus c'est quoi les chiffres exacts, mais en tout cas c'est beaucoup d'argent et voilà. Et puis de l'autre côté, la fast fashion qui prend toujours plus de parts de marché, qui ouvre toujours de plus en plus de boutiques et qui produit très très mal. Et au milieu, bon, il y a le ventre mou qui galère beaucoup aujourd'hui. On a deux modèles là, le luxe, la fast fashion. C'est quoi les alternatives? C'est quoi les futurs, les imaginaires positifs qu'on peut développer?
Oui, bah en fait.
Sachant qu'on vient de dire que l'upcycling c'était très compliqué quand même.
Oui, mais l'upcycling, le luxe, petit à petit, le luxe s'y met et va s'y mettre. Je lance un appel. Qui veut ouvrir un laboratoire d'upcycling?
Chez Kering ou chez LVMH, ouais.
Bah oui, ce serait bien. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites, les gars? Si je peux me permettre de vous interpeller. Et sachant que c'est un travail... Et du coup, on peut redéfinir aussi le luxe. Parce que le travail de la main, le travail des choses bien faites, ça existe. Mais je veux dire, il y a des sacs... des sacs en plastique qui se vendent très cher. Est-ce que c'est le luxe? C'est juste une image du luxe et c'est...
Ouais, mais c'est très rentable.
Oui. Bah, en fait, moi, je parle pas à ce... En fait, chacun a sa vitesse. Chacun fait ce qu'il peut. Moi, je suis pas là pour venir... En fait, moi, je mets le pied dans la porte avec ma proposition. Je suis pas une solution à... Effectivement, si tu gagnes un max de thunes en vendant de la merde, bah tant mieux pour toi. Moi, je propose autre chose. Je propose... quelque chose qui est créatif, beau, qui peut transmettre des valeurs, ouvrir des écoles, faire des projets du futur. Alors c'est peut-être moins rentable, mais en fait peut-être que ça partage mieux les richesses à moyen terme, et peut-être qu'à un moment ça deviendra une vraie nécessité que d'embrasser ces problématiques-là. Donc je vais pas m'attaquer à la fast fashion. En revanche, ce que je peux dire, c'est que par rapport au monde du luxe ou par rapport à la consommation de mode, il existe des alternatives. La location en est une. Bon, la première alternative, c'est le deuxième main. Donc, on sait qu'on a assez de vêtements pour habiller les 5 générations futures. Donc, moi, je prône, bien sûr, pour ce que je pratique. L'upcycling, ce serait le luxe du deuxième main. On peut, bah oui, après, donc il va y avoir plein de systèmes de même par rapport à l'upcycling, où on peut faire de l'upcycling ou le vendre, mais la grande tendance, et on le voit parmi tous les jeunes, c'est d'apprendre à faire soi-même son upcycling. Ouais, voilà. Après, comment tu réduis ton impact en tant que consommateur de mode? Eh ben, en utilisant de meilleures matières. Les matières, c'est compliqué, parce que même les matières naturelles, eh ben, pour plus de rentabilité, elles sont souvent mal produites. Mais il y a du développement matière intéressant. Oui, il faut acheter moins et mieux. Et c'est vrai qu'un vêtement qui dure, un vêtement qui fait partie de ta personnalité, qui te ressemble, devrait pouvoir durer comme toi-même.
Bien sûr.
Voilà. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'on est encore dans un monde de consommation où, pour être cool, il faudrait changer de vêtements tous les jours. Mais si le nouvel imaginaire ou le nouveau récit était que, pour être cool, il fallait que ton vêtement, il ait plusieurs vies et que tu portes les vies des gens sur toi parce que, justement, tu aimes les gens et que tu construis le monde de demain, et ben voilà, là, tu es dans un nouveau récit qui peut permettre de changer notre façon de consommer.
Trop bien.
Je sais pas si c'est clair.
Oh bah, c'est hyper clair. Non, j'adhère complètement au truc.
Les grandes questions.
Non, mais c'est des questions existentielles. Non, mais je pense qu'on se les pose tous. Et c'est vrai que moi, au travers de mon podcast, c'est toujours schizophrénique, parce que tu vois, hier j'interviewais le patron de My Teresa, qui est qui est une énorme. Non, ils sont milliardaires. Enfin, ils sont au milliard d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. Et le lendemain, je parle avec toi, qui me parle d'upcycling et qui a des problématiques et des visions du monde qui sont radicalement différentes. Tu vois, My Teresa, c'est comment faire grandir sa part de marché dans ce marché qui pèse des milliards dans la vente d'articles de luxe. Et donc là, ils sont pas dans une construction de nouveaux imaginaires. Ils sont.
Oui, mais ils ont besoin.
Ils ont besoin.
Toutes les grandes entreprises ont besoin aujourd'hui de se poser la question de la sustainabilité, de leur raison d'être, de comment on embrasse le futur, et même juste en termes de business, comment tu séduis les nouvelles générations. Et donc, ils sont tous là-dedans.
Non, mais de toute façon, eux, par exemple, ils travaillent avec Vestiaire.co pour racheter les stocks à leurs clientes, parce que leurs clientes en fait c'est des ultra riches qui ont pas besoin d'acheter, enfin en tout cas dans leur imaginaire elles achètent pas de la seconde main encore, tu vois, mais en tout cas c'est quand même des fringues qui sont bien produites, les marques de luxe en général elles produisent quand même en Italie, en Europe, etc., dans des belles matières, et ce stock qui ensuite n'est plus porté, et il est revendu à Vestiaire.co qui est a priori porteur de valeurs quand même positives qui font partie des nouveaux imaginaires. T'as pas bossé encore avec eux?
Non, mais j'aimerais bien. C'est eux qui pourraient, par exemple, faire une ligne d'upcycling.
On fait un appel.
Ben, je fais un appel, regarde.
Et on a fait Rissi, j'ai fait Rissi aussi récemment, qui est hyper cool, qui est une super boîte et qui a de belles histoires à raconter. Trop bien. C'est trop bien. Tous ces projets là, c'est fou. Et il y a aussi Wise Woman depuis depuis 7 ans, tu as créé ça, enfin tu as co-fondé en 2017. C'est quoi Wise Woman?
Wise Woman, c'est une association, c'est un cercle de femmes de la culture et de la création. Donc nous ce qu'on fait, c'est du mentoring auprès des plus jeunes femmes. Donc il y a c'est un réseau. Clairement, on organise des soirées, on se rend compte, donc femmes de la culture et de la création, on a tout, tu te fais plein de nouvelles copines, en tout cas des relations, moi j'adore. Et après, on met en place on a un appel à projet tous les ans sur 4 catégories qui sont mode et design, musique, édition et peut-être, je ne sais plus le dernier, mais peu importe. Et donc, on reçoit des dossiers et les filles qui gagnent, on les accompagne. Dans le développement de leur projet. Et aussi, on travaille avec des assos des assos pour des jeunes femmes défavorisées. Je pense à Revel, par exemple, cette association, où l'idée, c'est de combattre un peu l'atavisme. C'est pas parce que ta mère et ta grand-mère est infirmière que toi aussi, tu dois le devenir. Donc, en fait, on leur montre un peu ces métiers de la culture et de la création pour les inspirer et juste ouvrir l'esprit.
Trop bien. D'où te vient cette nécessité de donner comme ça, d'ouvrir des nouvelles perspectives aux gens? C'est un truc qui est vraiment ancré en toi profondément. Ça vient de quoi?
Je sais pas. En fait, moi, ça me rend heureuse. Hein. Ouais. Et en fait, je crois... c'est vrai que je crois fondamentalement que la joie, la collaboration sont des vecteurs d'empowerment et de construction du monde. Ouais. Et moi, ça m'excite de Bien construire sûr. Le monde. Je dirais ça.
C'est pas mal.
Ça va, c'est pas mal.
C'est vachement bien même. Très bien. Qu'est-ce que tu ferais différemment, toi, dans tout ce parcours-là? Est-ce que si tu pouvais changer quelque chose, tu changerais quelque chose ou on fait exactement la même chose?
Non,
très bien.
Je pense que je changerais plein de petits trucs, mais pour répondre à la question là comme ça, j'ai pas une grande idée. Finalement, je trouve que je m'en sors bien. J'ai une super belle histoire. Que je dois toujours développer, Andrea Cruz, le bébé que tout le monde adore. Marou, quand est-ce que tu refais des projets Andrea Cruz? Mais j'en fais, les gars. Moi, je me sens... je suis très bien dans ma vie. Et
dans tes baskets,
Je suis bien dans mes baskets, je monte des beaux projets. Et oui, en fait, je me trouve alignée avec mes valeurs et j'aime les partager. Et voilà.
C'est quoi le rêve ultime?
Le rêve ultime aujourd'hui? Oh, la question, mais tu parles de mon rapport à moi, mon rapport aux autres, mon rapport au monde?
Je sais pas, si je reviens dans 20 ans, qu'est-ce que tu as envie d'avoir fait, réalisé? C'est quoi tes grands rêves, en fait?
Je ne sais pas.
T'en as fait pas mal déjà quand même, hein, franchement.
Ouais, moi je crois que c'est plus, j'ai plutôt une accumulation de petits rêves. Le grand rêve, ce serait quelque chose d'idéal. Je vais pas dire dans un podcast, je vais passer pour une illuminée, mais bon, c'est, ou une naïve. Mais moi j'ai plein de petits rêves. Je suis active. Je crois en l'action. J'aime les gens, j'aime les propositions, j'aime les rencontres, j'aime réfléchir. En fait, aussi, ma créativité ne part pas de mon univers à moi. Ma créativité, elle part du monde ou de la problématique. Si t'as une problématique, je crois que mon mode opératoire, c'est clairement de me plonger dans ta problématique pour essayer de trouver une solution positive. Et ça, c'est un truc, je pense que c'est un truc psy qui fait de moi un être positif et proactif. Mais je sais pas d'où ça vient.
Très bien. TikTok ?
Ouais, TikTok, ouais.
Est-ce que t'as pété le game de TikTok ?
Non, ouais, une époque, j'ai bien pété le game. Ouais. Et puis là, je suis un peu plus...
Tu postes moins.
Je poste moins.
Ouais.
Mais c'est vrai que, oui, c'est, la caméra m'excite. Et raconter des conneries devant la caméra, ça m'excite. Et embarquer des gens avec moi et puis montrer ce que je fais. Parce que aussi, comme c'est dense et que c'est et qu'il y a un message, et ben, j'ai envie de délivrer ce message. Et c'est vrai que j'ai du mal à le délivrer, tu vois, très sérieusement et d'être... J'ai pas envie d'être chiante, j'ai envie d'être fraîche, pétillante, de prendre des chemins obliques pour raconter une histoire. Donc oui, l'influence, oui, je fais un petit peu d'influence, c'est pas très structuré. Ça marche. C'est cool.
Trop bien. Cool. Est-ce que tu as une question que tu aurais voulu que je te pose ?
Ah, non.
Est-ce que tu penses qu'on a fait un bon tour, on a fait un grand tour de la vie de Maroussia ?
Oui, j'espère que j'aurai pas ce qu'on appelle la répartie de l'escalier. Ah mince, j'aurais dû parler de ça.
La répartie de l'escalier, ouais.
J'ai reparlé de Andrea Cruz, on en a parlé.
Ouais, la genèse, des milestones, voilà. C'est très bien.
Moi, ce qui est important pour moi, oui, c'est de... Bah, qu'Andrea Cruz, c'est ma colonne vertébrale, mais que moi, au-delà de ça, je fais des projets. Que je suis une artiste, entrepreneur, qui est à la fois vivante, joyeuse, mais j'ai la tête sur les épaules. Ça, c'est important aussi de dire, bon, bah, c'est tout, hein.
Ouais.
Qu'est-ce que... Ouais.
Et d'après toi, pourquoi Sarah avait soufflé ton nom, Sarah Andelman?
Ah ben Sarah, elle a toujours soutenu Andrea Cruz parce qu'elle sait que je reboucle, une visionnaire. Donc, je pense que oui, voilà, c'est pour ça. Et c'est vrai que je mérite à être connue. Donc merci Adrien de m'inviter dans ton podcast.
C'est clair.
Ouais, voilà. Parce qu'il n'y a pas que Maï Teresa qui compte en milliards. Il y a aussi Maroussia qui compte en...
Ben, y a... Quoi ? En centaines de milliards.
Qui vaut un paquet de thunes.
Non, mais c'est... D'ailleurs, on n'a pas parlé d'argent, mais c'est... T'as réussi à trouver un modèle économique dans tout ce que tu fais au travers de, à la fois Andrea Cruz, mais aussi ton consulting, etc. Ce qui fait que t'arrives à survivre en étant artiste, etc. Et ça, c'est quand même génial.
Ouais, moi, je survis pas, hein, je vis.
Très, très bien.
Non, mais c'est pas, et je veux dire, vivre très très bien, c'est pas qu'une question d'argent.
Bien
c'est
sûr.
Ça, c'est important de le dire.
Ouais.
C'est une question de justement d'être bien aligné avec soi, son corps, ses amis, ce que tu fais, quoi tu crois. J'ai pas de dissonance cognitive entre qui je suis et ce que je fais. Même si je sais que je suis toujours, on est tous dans le paradoxe, j'assume mes paradoxes et j'essaie de faire de mon mieux.
Trop bien.
Trop bien.
Super réponse.
Trop bien.
Je pense que là, on a deux, trois TikTok qui peuvent être assez cool. Quand même. t'as des punchlines qui sont vraiment cool. En parlant de punchlines, t'as fait un peu de radio aussi.
Oui, j'avais fait de la radio à l'époque. Ouais. J'avais une petite émission, une chronique dans l'émission d'Arthur Dreyfus sur France Inter qui s'appelait « Comment s'habiller pour sortir ?»
Trop bien.
Et je racontais des... J'étais en impro totale. C'était un peu dur parce que j'étais entre Eva Bester et Arthur Dreyfus, donc des gros intellos qui parlent hyper bien des sujets qu'ils ont écrits et qu'ils maîtrisent. Et moi, je devais arriver comme ça en impro pour parler de mode. Ça durait 5 minutes pendant un an, j'ai fait ça.
Okay. Toutes les semaines.
Toutes les semaines à Radio France, ouais.
Wow, ça va être super excitant. Et c'était quoi la thématique? C'était vraiment comment s'habiller pour sortir ce week-end, comment je m'habille, quoi?
Oui, je trouvais une thématique à chaque fois. C'était un peu décortiquer la tendance, on va dire.
Sur un point, sur un côté humoristique, quoi.
Oui. Oui, j'étais on me prenait pour faire de l'humour. C'était difficile.
Non, et
c'était...
du stand-up, non cette,
non, non, je ne fais pas de stand-up. Non, moi, je suis très... Oui, c'est vrai que la caméra m'excite, donc regardez-moi. Je m'appelle Maroussia Rebec. Je suis sur...
Et on te trouve où, hein?
Sur Instagram et TikTok, tu mettras les liens. Hein.
Maroussia Rebec.
Ouais, Mama Roussia. Et donc, voilà.
Trop cool.
Je vais pas trop faire mon auto-promo, mais tu mettras les liens.
C'est un peu le concept. Hein.
Si les gens, si ça les intéresse, pourront cliquer.
Trop bien. Bah écoute, merci infiniment, Maroussia.
Merci
cool.
à toi, Adrien.
Dernière question pour transmettre le relais à ton tour.
Ah oui.
Qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
Ah oui, donc moi, j'avais réfléchi à une femme que j'adore. Ça paraît un peu décalé, là, mais... parce que j'avais pensé à Keren Zanil, qui est la head designer de Decathlon. Parce que j'adore cette marque, Decathlon. Et qu'ils ont plein de projets sur le feu et que voilà, j'avais pensé à ça.
Trop bien. Elle est head designer, donc elle chapeaute tout le design de toutes les équipes design.
Je pense. Mais comme en fait c'est très complexe le design chez eux, ça serait intéressant de savoir comment ça fonctionne.
Ah bah ouais, j'adore. Mm. C'est une super idée. Merci.
Et en plus, comme t'es plutôt avec des gens créateurs ou très fashion, d'avoir quelqu'un qui soit très grand public.
Ouais, mainstream, ouais. Mm.
Voilà, je trouve que ce serait. Je m'étais dit que ça, c'était intéressant.
Voilà, ouais, t'as une super idée. Tu me fais une intro?
Je peux.
Ouais, trop bien. Merci beaucoup. Salut, Maroussia.
Salut.
Je m'appelle Adrien Garcia et vous venez d'écouter The Bold Way. The Bold Way, c'est aussi une newsletter dans laquelle je vous partage un email par semaine rempli de contenu exclusif, d'idées innovantes et de ressources précieuses pour vous aider à surmonter vos défis et tracer votre propre chemin. Inscrivez-vous dans les notes de cet épisode ou sur theboldway.fr. Last but not least, la meilleure manière de m'aider est de partager ce podcast autour de vous. Si cet épisode vous a aidé ou touché, partagez-le à vos proches et à vos amis. Merci pour votre confiance et à bientôt pour un nouvel épisode.